Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Bien, c'est parti. Nous parlons à présent du coton, la production du coton. Vous savez, le coton est faiblement cultivé depuis la suite de la production agricole nationale vers la fin des années 80. Selon les experts en agriculture, la RDC disposait jadis des vastes étendues où la culture du coton a été exploitée. Alors, quel état des lieux faire aujourd'hui de la culture du coton et comment relancer la production, comment relancer cette filière? Professeur Patrick Mobambo, expert en culture pérenne et vivrière, est l'invité du magazine Okapi Service. Professeur, rebonjour.
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la culture du coton. Quels sont les préalables pour relancer une telle culture?
Oui, j'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette importante émission et dire aussi bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, en particulier mes étudiants qui me suivent partout à travers le pays, à Kindu, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Cabinda, un peu partout où je passe. Parce que je leur ai toujours parlé de cette culture importante pour ce pays.
Oui.
C'est une culture capitale pour le développement dans plusieurs secteurs de ce pays. Et à l'époque, d'ailleurs, on le savait bien, c'était la culture qui était pourvoyeuse des revenus aux paysans. La solution, comme vous dites, c'est qu'il faut faire. Eh bien, la solution, elle est connue de tous. Comme on dit toujours, on ne peut pas réinventer la roue. Elle a existé, elle a été appliquée à l'époque. Comment on le faisait? Eh bien, il faut tout simplement mettre d'abord les producteurs en confiance, les rassurer de l'écoulement de leurs produits. C'est-à-dire, les gens qui produisent, il faut qu'ils soient rassurés qu'ils finiront par vendre leurs produits. Lorsqu'ils traînent avec leurs produits dans le stockage, eh bien, à ce moment-là, ils ne pourront plus développer cette culture, ils ne pourront plus produire les mêmes produits qui n'ont pas été achetés. C'est-à-dire, pour caricaturer un peu, il faut focaliser toute l'attention sur les agriculteurs paysans par une campagne agricole dans leur milieu. Parce que vous le savez, monsieur le journaliste, dans tous les discours, qu'ils soient politiques ou scientifiques, eh bien, tout le monde sait, et on parle toujours des 70% de la population qui se trouve dans les milieux ruraux. Donc, les 70% de la population congolaise. Alors, dans notre milieu-là, les milieux paysans, eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont comme activité? Ils n'ont que l'agriculture comme activité.
Alors, professeur, dites-nous, oui. Quels sont les différents endroits à travers le pays où, à l'époque, il y a eu des grandes plantations de coton?
Oui, non seulement les plantations, parce qu'il y a eu beaucoup d'usines. Les usines, parce que c'est une culture industrielle. Lorsque vous produisez le coton, eh bien, il faut absolument que le coton soit traité par une industrie. Donc, le produit du coton qui est produit, c'est les fibres. Donc, c'est ça le produit utile. Et ces fibres doivent passer par une industrie textile qui doit les travailler. Et le coton qui est donc sorti de l'usine doit passer par les tissages pour produire les tissus que nous portons. Alors, à part ça, à part les fibres, il y a aussi l'huile de coton.
Oui, professeur, ma question était de savoir quels sont les endroits à travers le pays où il y a eu des grandes plantations de coton.
Oui, donc la production congolaise, souvent, parce qu'effectivement, on ne produit pas le coton partout à travers le pays, en fonction des écologies. Donc, la production congolaise provenait essentiellement de deux zones principales qui étaient situées de part et d'autre de l'équateur, c'est-à-dire la zone cotonnière nord, c'est-à-dire vers Lubangi et Luele. Donc l'équateur et la province orientale, et puis la zone cotonnière sud, qui comprenait le Sankuru, donc dans le Kasai, le Maniema et la Rusizi. Et effectivement, c'est pourquoi je parlais des usines. Donc dans ces milieux-là, les usines ont accompagné cette culture. Dès que le produit provenait des champs, ça devait être aller directement pour être transformé dans les usines. Et malheureusement, comme la culture n'existe plus, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le produit n'a pas été revalorisé.
Alors, professeur, dites-nous, dans quelle catégorie peut-on placer le coton? Est-ce que c'est une culture pérenne, vivrière ou maraîchère?
Non, c'est une culture annuelle.
C'est une culture annuelle.
Une culture annuelle, oui, unique, parce que le coton a un cycle qui varie de 4 à 7 mois. Hein, comme on ne peut pas le produire en une fois, donc récolter les capsules en une fois, parce que la récolte est échelonnée, donc ça varie de 4 à 7 mois, donc c'est annuel. Hein, et après avoir récolté, bien sûr, il faut traiter directement ce coton produit, hein, sinon il est abîmé. Donc, en ce moment-là, il y a les usines, comme le coton n'était plus acheté, les paysans ont abandonné la culture, et les usines aussi ont fermé. Des usines qui traitaient ce coton-là. Il y a eu à l'époque, hein, dans le Maniema, dans le Sankourou, les usines textiles, la Fultiza Fakalemi, hein, à Samba, il y avait des usines aussi dans le Maniema, la Soteski, hein, de Kisangani, qui manquaient donc de produits, de matières premières.
Oui.
Oui, et ça a des problèmes. Et même à Kinshasa, il y a eu beaucoup de d'usines textiles. Et la seule qui nous reste, c'est l'Utex Africa, hein, qui produit bien sûr, mais à quel prix produit les tissus, parce que l'Utex Africa est obligé d'importer la matière première, qui est le coton. Vous voyez, quand vous importez la matière première, eh bien, le produit fini que vous allez sortir ne peut pas coûter moins cher. Il coûte plus cher même que le tissu importé. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, c'est un problème. Et quand ça ferme, ces usines ferment, partout là où j'ai cité, dans toutes ces villes-là, eh bien, il y a eu des conséquences énormes. Des conséquences sur la vie socio-économique des agriculteurs d'abord et même des travailleurs.
Oui.
Donc,
bien.
Tout le monde est allé au chômage.
Voilà, tout le monde est allé au chômage. On va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accorder la parole aux auditeurs. Nous avons en ligne l'ingénieur David Assobé et nous appelle depuis Bounia, en province orientale. Vous voulez également participer. Composez le 081-890-6394.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment relancer la filière de production du coton dans notre pays? Ingénieur David Assobé, bonjour.
Bonjour, journaliste et l'invité.
On vous écoute, ingénieur.
Ok, merci de m'avoir accordé, de m'avoir associé même. Ok, je voudrais d'abord saluer le professeur Passan et... Nous savons, bon, tout le monde sait que dans le jargon congolais, tout se dit, ça se chatte, l'agriculture priorité des priorités. Ce que nous voudrions contribuer dans cette émission, c'est, comme vous avez donné l'énoncé, nous nous demandons, on fait l'agriculture, mais avec qui? Parce que nous savons que chaque domaine, il y a quand même des techniciens, il y a des... Bon, déjà qui se sont donnés pour ça.
Ingénieur Assobé, dites-nous par exemple à Bounia, est-ce que vous avez eu à l'époque des plantations, des grandes plantations de coton?
Oui, j'ai grandi là où on a pratiqué la culture de coton, dans les Hauts-Tuélé. Je voyais les camions, je voyais la Soteski qui était implantée même dans mon village.
Oui.
Bon, maintenant aujourd'hui on s'est dit, tout ça c'est tombé par terre et la population en souffre parce que on sait vraiment plus comment survivre. Alors on s'est dit tout ça c'est pas par manque de la politique de notre pays pour ne pas donner, comme ça s'est dit, priorité des priorités, aussi donner priorité aux moyens et aux personnes. Donc s'il faut parler de l'agriculture, il y a quand même des gens à qui on doit se référer. On doit développer les nouvelles techniques pour l'encadrement de ces cultivateurs, de ces producteurs. Tant que nous sommes en train de suggérer ceci, tant que notre gouvernement ne sait pas identifier avec qui il va travailler dans le domaine d'agriculture, nous nous disons tout va se passer sans effet. Parce que la population, le pauvre cultivateur, lui n'a aucune notion, n'a aucune technique. Il va appliquer une technique de routine et puis ça sera toujours une production sans effet, sans impact. Alors que c'est une comme l'a dit le professeur, c'est une production normalement industrielle. Et qui dit industrielle, ça veut dire qu'il y a de nouvelles techniques. Mmh. Et il doit avoir un encadrement.
Bien, merci, merci ingénieur David. On va découvrir les nouvelles techniques tout à l'heure avec le professeur. Et il nous dira comment encadrer ces paysans ou ces agriculteurs pour relancer la production. Merci d'avoir appelé. Jérémy Do, vous êtes à Bandounouville. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Bon, j'ai des préoccupations. Bonjour d'abord à l'invité. Je ne sais pas, j'ai des préoccupations à poser à l'invité.
Oui.
Est-ce que ces plantes de cotonnier, on plante ça dans quelle saison? Parce qu'ici à Bandundu, vraiment, ces plantes sont trop rares. Ici à Bandundu, bon. La deuxième audite des questions, je ne sais pas, si vous plantez ces plantes de coton, la récolte se fait comment? Donc l'invité peut nous dire comment se fait la récolte de coton.
Merci. Professeur Patrick Mobambo.
Oui, merci. Merci à l'ingénieur David et à M. de Bandundu qui venait de poser ces questions.
Oui.
Effectivement, M. David a tout à fait raison, hein, l'ingénieur David a raison. Moi, je l'ai dit au départ que la solution, elle est connue. Mais à l'époque, comment on faisait? Parce que la culture a existé. Et les gens vivaient mieux dans nos villages. Il n'y avait aucun problème. Moi qui vous parle ici, j'ai étudié grâce à cette culture. Il n'y a jamais eu un problème d'exode rural. Les paysans se sentaient à l'aise. Hein, ils pouvaient faire scolariser leurs enfants, les soins de santé, sans problème. Mais c'est ça, il faut revenir à ça. Donc, mettre l'attention sur le producteur, le considérer, lui, le producteur. Le considérer, c'est quoi? C'est-à-dire, d'abord, l'accès. Vous savez que dans la plupart de nos villages, il n'y a plus d'accès. On ne voit plus un seul véhicule. On ne voit plus les vulgarisateurs là, parce qu'à l'époque, on voyait les petits blancs, bon, petits, c'est un peu péjoratif, hein, les blancs, donc les vulgarisateurs, les agronomes, les moniteurs agricoles.
Oui.
Ici, on est nos villages. Donc, dès qu'on voyait un moniteur agricole venir dans un village, donc, en ce moment-là, les paysans se sentaient considérés. Donc, aussi longtemps qu'il n'aura pas cette considération, ils se sentiront délaissés, eh bien, ils ne fourniront aucun effort dans ce qu'ils devront donc produire comme produit agricole. En ce moment-là, quand vous y allez, c'est-à-dire les chercheurs, hein, les scientifiques, les moniteurs agricoles, ils y vont pour encadrer. Eh bien, encadrer, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ne vont pas y aller main vide. Ils amènent les semences. Mais il faut d'abord qu'il y ait des semences. S'il n'y a pas de semences, eh bien, comment ils vont produire? Il n'y a plus jamais eu de semences là-dessus. Donc, eux, amener les blancs là, les moniteurs agricoles, amener les semences dans chaque village. Et ces semences n'étaient pas achetées cash. C'est-à-dire, ils ne les vendaient pas cash. C'était à crédit. Tout en sachant que le produit de récolte, parce que ça devra nécessairement être acheté par la société,
oui,
il devra aller dans ce village-là, donc transporter. Ce n'est pas le paysan qui doit mettre le fardeau de coton sur sa tête. Le village était chaque fois accédé par les véhicules de ces sociétés. Donc, la société qui est connue, la Cotonco à l'époque, puis la cotonnière, on a Fitex. Donc, le paysan était assuré de vendre son coton. Alors, en ce moment-là, on défalquait un pourcentage de ces semences-là qu'on a donné aux paysans. Après avoir encadré, donc montré comment il faut semer les graines, les écartements, comment il faut le faire, les traitements, l'entretien. Et parce que c'est une culture qui est souvent attaquée par les insectes.
Oui, professeur, si vous pouvez directement répondre à la question des jurys qui veut savoir quelle est la saison favorable à la culture du coton.
Non, la saison, elle est connue. Les paysans le savent. On ne cultive pas n'importe quand. Hein? Toute plante, qu'elle soit vivrière ou même pérenne, on sait quand est-ce qu'il faut la planter. C'est pendant la saison pluvieuse. Hein? On met la culture en place pendant la saison pluvieuse. C'est pour que plantes puissent bénéficier de ce maximum d'eau là, des pluies qui tombent. Parce que c'est une culture qui est cultivée dans le milieu paysan. On ne peut pas irriguer, on n'arrose pas. Donc on se contente des moyens naturels. Vous voyez? Donc c'est pendant la saison pluvieuse. Et puis la récolte, comme il a demandé comme question, la récolte, c'est lorsque les capsules, parce que je ne sais pas si bon, lui n'a pas encore vu, dans le Bandundu, il n'a pas encore vu la plante cotonnière. C'est dommage, parce que cette plante donne les capsules. Alors, il faut attendre que ces capsules, les capsules, c'est comme des fruits, hein.
Oui.
Il faut attendre que ces capsules s'ouvrent. Et souvent, ça s'ouvre pendant la saison sèche. C'est-à-dire, la récolte doit intervenir pendant qu'il ne pleut pas. Parce que quand la capsule s'ouvre, ça fait voir les cotons, ça fait donc ressortir les cotons.
Mmh.
Ah bon, il ne faut pas qu'il y ait de pluie. À ce moment-là, vous allez donc prendre ce coton-là dans cette capsule qui est ouverte, qui a séché. Vous voyez, donc, vous ressortez le coton et vous le gardez dans un sac que vous amenez dans votre dépôt pour le nettoyer après. Parce que à la vente, on vérifie le coton qu'il soit le plus propre possible. Hein, donc, vous enlevez encore tous les déchets qu'il y a, parce qu'il y a toujours des morceaux de feuilles, etc. Hein, donc, vous éliminez tout ça et vous emballez le coton pour que la société puisse acheter.
Bien, on va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accueillir Flory Ngumbu. Il nous appelle de Kinshasa. Flory, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Flory.
Oui, à ce qui concerne les cotons, avant de parler de thérapeutique, je voudrais un peu vous énumérer les causes qui ont mis fin à la production de coton dans les Bas-Ouélé,
oui,
c'est-à-dire dans la province orientale.
Quelles sont ces causes?
La première chose, c'était la rupture des fonds de relance cotonnière avec la CFDT Paris. Deuxième cause, la dégradation de l'état des routes. Parce que le fonds de l'errance, la société cotonnière qui est la Côte du Nord, qui signifie une société de développement rural du nord du Bas-Ouélé,
oui,
avec la rupture de ces fonds, la société ne pouvait plus s'occuper des évacuations des cotons par la mauvaise condition des routes.
Oui.
Troisième cause, le changement des politiques de la propagande agricole à la relance cotonnière. La propagande agricole donnait des primes aux producteurs de coton parce que la société n'avait pas de plantation. La société travaillait avec les paysans. Maintenant, quand ils ont changé la politique de vulgarisation agricole, il fallait que les paysans lui-même qu'il sache que lui qui doit acheter les produits phytosanitaires. Alors, à cela,
oui,
les paysans avaient doute parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Ils n'avaient plus de primes. Ils voyaient que non, la société l'air détournait. Voilà les causes qui ont mis fin à la production de coton.
Mmh.
Les usines sont, à un moment où nous parlons, les usines sont installées à Dingila, à Makongo, à Zobia, à Titoulé, à Banalia, à Bambessa. Les usines sont disponibles. Il suffit tout simplement que le gouvernement s'y attache pour relancer. Et je vous signale que ce n'est pas la production, le coton n'était pas produit par la Sotesky. Il y avait une société à part pour la production.
La production du coton. Votre correspondant.
Oh, désolé. Notre correspondant n'est plus en ligne. Alex Yav, vous êtes à Colouzi, bonjour.
Bonjour, je voudrais dire ceci. Hein.
Oui.
Moi, je voulais d'abord situer le sujet dans deux phases. Hein.
Rapidement.
Je voulais d'abord mettre de côté le producteur artisanal. Dans ce cas, pour pallier, pour aménager ce secteur, je voudrais que l'État d'abord puisse les mettre ensemble, qu'ils puissent former des associations pour faire face à la production. Parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a la mondialisation, il faut produire en masse, il faut mettre ces gens en groupe,
oui,
leur permettre de produire, de maximiser de la production, en leur accordant par exemple les tracteurs, en leur permettant le moyen de communication entre la production et l'endroit de consommation. De l'autre côté, je voudrais relever aussi les entreprises capables qui produisent. Dans ces cas, il faut que l'État puisse soutenir comme il a fait avec la gétamine. Quand, par exemple, les entreprises produisent au-delà de leur coût de production, l'État subventionne la production en leur accordant des montants,
oui,
qui leur pallient en agissant par la fiscalité, en mettant pour les protéger en baissant les taux d'imposition à l'entrée pour les machines qui leur permettent de maximiser la production.
Oui.
Dans ces cas-là, je pense qu'on va
relancer.
L'État va être en mesure de soutenir cette filière. Quoi.
Merci Alex Yav de Colosi. Alors, professeur Patrick oui. Mobambo, vous avez suivi les interventions, les différentes interventions des auditeurs. Alors, oui. Si vous pouvez recadrer, nous dire aujourd'hui, quels sont les préalables? Vous avez dit, premièrement, il faut trouver des débouchés pour les producteurs. Il y a oui. d'autres propositions, il faut les regrouper en association. Oui. Alors, quels sont les autres préalables pour relancer la filière de production du coton?
Oui, effectivement, M. Flory, je l'ai suivi, M. Yav, ils ont tout à fait raison. Hein.
Oui.
Lorsque, comme je l'ai dit, l'État n'intervient pas, parce qu'il faut absolument l'intervention de l'État. Hein. L'État doit intervenir, vu l'importance de cette culture, comme je l'ai souligné au départ, c'est une culture importante, même sur la vie socio-économique. Donc ça permet à ce que les agriculteurs puissent être à l'aise dans leur milieu rural où ils sont. Donc, en ce moment-là, il faut absolument l'intervention. Le fonds, M. Flory a parlé. Effectivement. Donc, ça, c'est l'intervention toujours de l'État. Donc, il faut qu'il y ait des moyens pour supporter d'abord ceux-là qui font la culture. Comme il a dit, ce sont les paysans. Nous n'avons pas d'exploitants industriels dans nos pays, dans notre, même les pays africains. Hein, ce sont les paysans qui le font. Alors, il faut absolument que ces paysans soient en confiance avec l'État, avec l'acheteur. Hein, avec celui qui doit soutenir. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça reste toujours au niveau des slogans. Il faut qu'on voit cela dans les actes. Hein. Donc, il faut regrouper, comme l'a dit M. Yav, organiser les paysans. Même à l'époque, c'était organisé en paysanat. Hein. Donc, en paysanat et les coopératives. Parce que la société qui viendra acheter, la société les véhicules ne vont pas sillonner chacun des villages. Non. Le véhicule va dans un village donné où les paysans sont organisés avec leur dépôt du coton et l'acheteur, donc la société, la cotonnière à l'époque ou le cotonco, va organiser le marché dans ces milieux-là. Donc il faut organiser ces paysans dans les associations. Et en ce moment-là, effectivement, la suite va suivre parce que il n'y a pas que la fibre. Il n'y a pas que la fibre, il y a l'huile même de coton. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit, industrialisé, il y a les restes, hein, les sous-produits, donc les graines qui restent, eh bien, doivent être utilisées, donc exploitées pour produire de l'huile. Ça existait à l'époque, l'huile de coton, on a consommé ça. Hein. Et quand vous extrayez l'huile de ces graines-là, il y aura les déchets qu'on appelle les tourteaux. Donc tout ça aussi, ça a été utilisé à l'époque, pour l'alimentation de bétail. Mmh. Donc, c'était une culture qui était un peu, qui avait plusieurs effets, donc des effets multiples. Hein? Et en ce moment-là, dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs de production agricole, les secteurs d'élevage, tout était florissant, même sur le plan commercial.
Voilà tout. Madame, nous sommes en train de voir dans l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer cette filière. Vous avez dit tout à l'heure, il faut trouver des débouchés pour les cultivateurs, il faut les regrouper, il faut une politique nationale de relance. Alors Thomas, nous allons accueillir Thomas Oubento qui nous appelle de Mahagui en province orientale. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Thomas?
Oui, j'ai... trois petites préoccupations.
Oui.
La première, je voudrais juste évoquer les grandes causes qui fait que, au niveau de la plaine de Maguiport, nous sommes découragés pour la culture de coton.
Oui.
Les causes sont entre autres. Premièrement, lorsque nous cultivons, après avoir cultivé le coton, nous avons ramassé les produits, mais nous allons nous trouver devant un prix là vraiment dérisoire, à tel point que nous, agriculteurs, nous sommes découragés. Et ce qui fait que souvent nous exportons même notre produit vers l'Ouganda.
Mmh.
Deuxièmement, nous avons la non-prise en charge des agriculteurs par la société cotonnière. Qui, autrefois, il y avait cette société appelée communément Codenor.
Oui.
Cette société prenait en charge les agriculteurs en leur distribuant des semences et autres, même des produits de traitement. Mais depuis le campillage là des années antérieures, nous sommes restés quand même comme ça, on nous a abandonné à notre sort, nous nous débrouillons tant bien que mal pour trouver même des produits de traitement de coton.
Alors Thomas, j'imagine que vous êtes un producteur, dites-nous...
Effectivement, je suis un producteur de la plaine de Maguepor, c'est là où même nous produisons beaucoup de coton par an.
Alors comment vous arrivez à avoir la semence par exemple? Qu'est-ce que vous faites pour avoir de la semence?
La semence sort est importée. Nous bénéficions de l'Ouganda. C'est seulement cette année-ci que la Côte des Nord s'est rétablie. Elle nous a distribué des semences.
Merci à Thomas pour cette intervention. Jean-Pierre Imi nous appelle depuis Isiro, en province orientale. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, les sujets m'intéressent beaucoup et mes propositions sont celles-ci. Donc, nous pensons que pour refaire revenir les cantons, il faut une politique nationale. Il faut que les gouvernements en soi puissent préparer cela et puissent avoir ça dans son agenda pour que la production des cantons puisse rentrer. Puisque ça, il faut beaucoup de préalables. J'ai apprécié beaucoup les interventions des personnes qui m'ont précédé.
Oui.
Puisque l'infrastructure routière est une priorité, puisque les gens ne peuvent pas produire comme ça et pour qu'ils ne puissent pas apporter ça dans les liens des consommations, les liens où on va l'utiliser. Mais aussi les problèmes tels que si le gouvernement n'a pas l'argent pour revenir dans ce secteur, on doit assainir le climat des affaires, telles que les infrastructures et les autres choses qui vont permettre aux investisseurs ou des sociétés qui s'intéressent à l'affaire de venir s'implanter pour non seulement avoir des plantations, mais surtout accompagner la population, puisque c'est la population qui va produire. Mais aussi, nous devons, le pays doit aussi réformer, donc recycler ces moniteurs agricoles, les inspections de l'agriculture, pour que nous puissions donc revenir encore dans cette culture. Mais la population en elle-même, pour qu'elle puisse revenir dans ça, ça sera un peu difficile, puisque la situation du pays est tellement, la dégradation des routes et des autres facteurs est tellement rentrée, donc la population en elle-même ne peut pas vraiment aller.
Oui.
Donc, une politique du gouvernement pour exciter les investisseurs et les autres, pour que nous puissions encore revenir dans ça.
Merci Jean-Pierre. Oui, merci Jean-Pierre depuis Isiro. Alors, professeur Patrick Mubambo, vous avez suivi toutes ces interventions. Alors, face à toutes ces difficultés, par où commencer?
Oui. Non, j'ai suivi. Hein. Mais tout le monde revient à ce que je dis. Hein. Monsieur Thomas est revenu sur le problème des prix. Hein. Thomas Demahague, il a parlé même des prix dérisoires. Mais il faut absolument que les prix soient intéressants pour motiver. Mais il faut la motivation. S'il n'y a pas de motivation, pourquoi alors aller passer le temps en brousse en train de cultiver cette plante-là? Il faut absolument que les prix soient intéressants. Donc que le producteur soit intéressé à cela, soit rassuré d'abord de vendre et à un bon prix, un prix intéressant. Hein. Et effectivement, il a parlé encore de la prise en charge des agriculteurs. Donc c'est la même chose. Donc il faut que les producteurs soient effectivement pris en charge, considérés. Vous savez, les paysans ne demandent pas trop. Hein, ne demandent pas trop, parce que, c'est, comme je l'ai dit, c'est leur activité. Ils ne vivent que de ça.
Oui.
Un paysan, il est au village, il se réveille le matin, il prend sa eau, il va faire son champ. Eh bien, il faut qu'il s'y retrouve, qu'il trouve qu'il va bénéficier de ce qu'il fait comme travail. Hein. Mais s'il n'y a pas de considération, il n'y a plus de route, comme l'a dit M. Jean-Pierre Dissiro. Mais il n'y a plus d'accès. Lorsqu'on ne voit personne, mais quelle est cette confiance ou le courage que le paysan aura d'aller encore et faire la même culture? Comme il a dit, actuellement, effectivement, il a raison. La population en elle-même ne peut plus, même si vous venez avec le discours pour dire, bon, il faut refaire cette culture, eh bien, si la population ne voit pas encore les actes concrets, eh bien, elle ne pourra pas se lancer dans cette culture-là. Donc, effectivement, l'accès d'abord, aller vers eux. Et n'ont pas tenu les discours en ville, dans des bureaux. Non, il faut aller dans les milieux de production. Parce que les milieux sont connus. Comme je l'ai dit, on ne peut pas réinventer la roue. Les milieux sont connus à travers les statistiques agricoles. Ça se trouve au ministère de l'Agriculture. À travers les statistiques agricoles de tout notre pays, on sait dans quel pays, non, disons dans quelle ville, dans quel village, dans quel district, on produit tel ou tel produit. Eh bien, il n'y a qu'à appliquer cela. Hein. Donc, on va vers eux avec les semences, comme je l'ai dit. Vous voyez, quand il vient de dire, M. Jean-Pierre, qu'il se retourne vers l'Ouganda. Bon. Vous comprenez tout. Mmh. C'est parce qu'effectivement, là, il y a un bon marché. Les semences même proviennent de l'Ouganda, mais ce n'est pas possible. Et lorsqu'ils vont vendre leurs produits à l'Ouganda, alors, nos industries textiles, qui sont dans notre pays, qu'est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont trouver les matières premières?
D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit, il dit, c'est Ansi Mouimba, il nous dit les districts des KCC en Ouganda ne vivent que du coton. Et tout dépend de la bonne organisation et de la bonne gestion.
Voilà, voilà. Donc les gens sont là pour faire ce travail, les gens sont là. Il ne faut pas, moi je l'ai dit quand j'ai parlé de l'ITEX Africa. Vous voyez, pour le moment on parle du Mali, du Tchad. En Afrique, hein, le Mali et le Tchad sont maintenant les premiers. Vous savez que la RDC était le quatrième producteur du coton africain à l'époque. La RDC, il y avait le Mali, le Tchad, le Nigeria. Et puis venait la RDC. Vers les années 60. Alors, qu'est-ce qui faisait cela? C'était tout simplement la motivation. Donc, nous pouvons tout faire. S'il y a vraiment cette bonne volonté-là, bon, qu'on qualifie aussi de volonté politique, dans les actes. Si cette volonté existe, eh bien, le pays peut refaire cela. Parce que les gens ne vivent que de ça. Lorsqu'il n'y a pas de route, on ne voit personne venir acheter. Le coton ne se mange pas. Si c'était encore le maïs, on pouvait dire, bon, je peux faire ça, je vais manger. Mais le coton, non. Il faut que ça soit acheté et passé par l'industrie. Voilà.
Voilà.
Donc, oui, lorsque les paysans se retrouvent avec le coton dans leur dépôt, et ils ont, parce que moi j'ai vu ça, ils ont le coton qui est resté là, ils ont fini par mettre dans des matelas, ça ne suffisait toujours pas, et ils ont fini par brûler. Pensez qu'un paysan qui brûle le produit de sa récolte peut encore se remettre à faire cette culture-là? Jamais. Et c'est comme ça qu'ils se sont tous jetés dans d'autres cultures vivrières. Et on a abandonné la culture du cotonnier avec toutes les conséquences que nous connaissons en ce moment
alors,
à travers le pays.
Alors, professeur, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure au début que la culture du coton est souvent attaquée par des maladies. Et quelles sont ces maladies qui détruisent souvent, qui attaquent, disons, cette culture?
Oui, c'est surtout d'abord les insectes, comme je l'ai dit, parce qu'à l'époque, on voyait les encadreurs, là, les monteurs agricoles, amener les produits. Et les produits, c'était surtout les insecticides. Bon, à l'époque, c'était le DDT, qui était finalement abandonné par après, à cause des effets nocifs sur l'environnement. Donc, c'est pour appliquer et détruire ces insectes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même pour les maladies. Parce que c'est une culture qui est appliquée dans les milieux ruraux. Comme quelqu'un l'a dit, un auditeur a parlé des produits. Il faut qu'ils aient des moyens pour acheter les produits de traitement. C'était M. Thomas. Bon, les produits, vous savez, les agriculteurs paysans ont difficile à manier cela. Et c'est pourquoi ce sont les moniteurs agricoles, les blancs là dont je parlais, qui amenaient ça et qui traitaient pour les paysans. Pour le moment, nous conseillons donc la recherche scientifique, conseille par exemple de faire la rotation des cultures. C'est-à-dire quand vous avez cultivé votre coton, cotonnier, après avoir récolté, vous changez de culture dans le même lieu. Donc vous mettez par exemple une culture vivrière, le maïs par exemple. En ce moment-là, les maladies ou les insectes qui ont attaqué le cotonnier, eh bien, n'auront plus la plante qui leur est habituée. À ce moment-là, la maladie ou les insectes vont un peu disparaître. Donc, la rotation des cultures et aussi les semences. Les bonnes semences.
Oui.
Si la recherche produit les bonnes semences, donc on appelle semences résistantes aux maladies, eh bien, c'est ça qu'il faut apporter vers les paysans. Comme on n'a pas des produits, des fongicides et tout ça à donner aux paysans pour qu'ils appliquent dans leurs champs, il faut leur apporter la bonne semence qui puisse résister aux maladies connues. Donc là au moins on pourra résoudre le problème de manière durable dans ces milieux-là et ne pas à ce moment-là affecter l'environnement.
Alors professeur, où trouver la bonne semence? Vous parlez de la bonne semence, mais où la trouver?
Oui, c'est vraiment un problème. C'est un problème actuellement parce que la culture n'existe plus. Même l'Institut National de Recherche, qui est notre seul institut, donc l'INERA, l'INERA qui à l'époque de l'INERAC, qui produisait les semences. Mais allez, en ce moment-ci, bon, la culture n'étant plus intéressante, n'étant plus pratiquée, eh bien, l'INERA lui-même n'ayant plus suffisamment de moyens, donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de semences. C'est comme M. Thomas l'a dit, eh bien, ils vont chercher les semences en Ouganda. Parce que là, au moins, la culture profite. voyez. Donc, ici, chez nous, ça a complètement disparu. Effectivement, comme on l'a dit, il faut une politique qui doit s'intéresser à cette culture-là.
Voilà, il faut une politique qui s'intéresse à cette culture. Oui. Et quelles sont, parlons un peu des techniques culturelles, par exemple, concernant la préparation du sol. Il faut, le coton exige quel type de sol?
Oui, le coton lui-même n'est pas très très exigeant en ce qui concerne la fertilité, parce que lui, il apporte la fertilité. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous ne verrez pas les champs de cotonniers installés sous forêt, là où est la forêt. Donc, vous risquez d'avoir plus le développement végétatif des plantes que la production donc de gousses là, qui vous donnent des cotons. Mmh. Donc, c'est surtout, parce que dans la fertilité, il y a ce qu'on appelle propriété physique et propriété chimique. Les propriétés physiques, surtout du sol. Donc, un peu de lourdeur, parce que le sable, comme ici à Kinshasa, eh bien, vous ne pouvez pas faire cette culture-là. Ouais. Donc, oui. Les propriétés physiques améliorées, où le sol est assez lourd, un peu d'argile, en ce moment-là, vous pourrez facilement faire cette culture. Et puis, les cultiver avec les écartements qui sont requis. Donc, par exemple, vous mettez soit 50 cm x 50 cm, ou 60 cm x 40 cm. Oui, donc, parce que ça va vraiment vous permettre de faire l'entretien facilement, de sarcler facilement, et puis cultiver le coton pas en association, c'est-à-dire on ne mélange pas les cotonniers avec d'autres plantes. C'est une culture industrielle, comme je l'ai dit, donc ça doit se cultiver en monoculture, donc seul en champ.
Oui.
Vous voyez, et c'est ce qui fait qu'effectivement, que les insectes et les maladies puissent attaquer sévèrement cette plante-là, parce qu'elle est seule en champ. Mmh. Elle n'est pas associée. Et quand elle est seule, ça permet une bonne production. Parce que si vous associez, à ce moment-là, vous réduisez l'espace que vous avez emblavé et la production sera faible.
Alors, et la production intervient, la cueillette intervient, vous avez dit, après 7 mois.
Oui, après 7 mois au maximum. Parce que les capsules, là, arrivent à maturité de manière échelonnée. Oui, ça n'arrive pas à maturité au même moment, parce qu'il y a des branches sur la plante principale, et chaque branche donne les capsules à sa formation. Donc, à ce moment-là, il faut récolter de manière échelonnée, donc faire plusieurs passages au champ.
Bien, on retient que pour relancer cette filière de production du coton, il faut une politique nationale. Il faut mobiliser les producteurs,
les organiser,
les soutenir. Oui. Il faut des routes, qu'il y ait des routes, des dessertes agricoles, voilà.
Oui. Les moyens, parce qu'il faut acheter.
Oui.
Donc il faut investir, mmh. Et ça va permettre de remettre en place les usines. Parce qu'on ne peut pas seulement produire le coton pour le garder ou le manger, non.
Oui.
Il faut remettre en place les usines, donc les débouchés. Bon, donc la finalité, c'est aller vers l'usine et être travaillé, produire les fibres y compris la matière première. Donc, pour la fabrication des tissus.
Bien, merci professeur Patrick Mobambo, expert en culture pérenne et vivrière. À la prochaine.
Ok, merci beaucoup. Merci à vous.